La source, c'est l'endroit où tout a commencé, la planque des écrivains, la tanière des romancières, là où les livres sont nés. Nous allons plonger ensemble au cœur de l'écriture, de ses vagues et de ses cachettes.
Je dis volontiers, ça n'est pas une image, que la langue, c'est le pays que j'habite. Et dans la langue, je ne cesse de remuer pour chercher la juste place de chaque mot.
Aujourd'hui, dans La Source, Marie-Hélène Lafon. Il y a dans le paysage littéraire français, tout à fait dans sa paume, au milieu des collines et des vallées de cette petite foule éditoriale, une romancière qui sait mieux que quiconque raconter son paysage, ses rivières, ses prairies, et débusquer le sens caché des choses enfouies sous les montagnes. Loin d'une littérature dite de terroir, mais née des mots de la terre et de celles et ceux qui la travaillent, la langue de Marie-Hélène Lafon, depuis 20 ans, est celle du paysage. Tout commence en librairie avec son premier roman, Le Soir du Chien, récompensé en 2001 par le prix Renaudot des lycéens. Peu à peu, libraires et lecteurs se passent le mot et les livres. Les Derniers Indiens, Joseph, Les Pays, ou encore récemment Histoire du Fils, qui a reçu, 20 ans après son premier texte, le prix Renaudot 2020. À travers ses mots, son corps et sa voix, le fil est tendu entre Paris et Saint-Flour, entre les arrondissements où tous se pressent et le Cantal où tous se taisent. L'obsession de l'arrachement et de l'attachement à cette terre d'enfance, cette zone de verdure jaune et bleue, ces lieux qu'on emporte avec soi comme des poumons supplémentaires. En ce mois d'août brûlé par la chaleur, Marie-Hélène Lafon m'a donné rendez-vous au centre de Toux, à Saint-Amandin, sur la place de l'église. Je suis partie de Clermont-Ferrand tôt, avant l'orage. J'ai pris un peu d'avance et en attendant, au pied d'une chapelle vigilante, j'ai eu le temps de croiser un duo de cyclistes, étonnés de voir un micro France Inter sur leur itinéraire. J'ai fait aboyer 7 chiens. J'ai discuté avec un enfant, Enzo, qui rêve de devenir journaliste. Marie-Hélène Lafon est arrivée. Nous sommes montés en voiture sur le plateau qui offre aux yeux avides de courbes les monts du Cantal d'un côté et les monts du Sancy de l'autre. Près d'un petit buron, une minuscule bergerie aux toits d'ardoise et aux pierres épaisses, nous nous sommes assises au carrefour de 3 chemins de foin et clôtures serrées, 2 tournées au calvaire de Chassagny. Ensemble, pendant 1 heure, nous allons revenir à la source de ces histoires.
Et ça ressemble à la beauté du monde. Je pense toujours à Louis Aragon. Toi qui vas demeurer dans la beauté du monde. Une part infime essentielle de la beauté du monde est ici. C'est relativement plat. Le ciel est immense. Des chemins partent. Nous sommes à la croisée de 3 chemins. Ça s'appelle la croix de Chassagny, du nom du hameau voisin. Le paysage est ponctué de clôtures. Clôtures de fils de fer barbelés, encore barbelés. C'est pas la même ponctuation. Et des poteaux encore assez approximatifs, des vieux poteaux de châtaigniers, pour un certain nombre d'entre eux probablement, mais pas seulement, parce qu'ici il n'y a pas de châtaigniers. Donc des poteaux qui ont vécu. C'est une ponctuation essentielle, hein. Dans un texte la ponctuation est essentielle, dans un paysage aussi. Ce paysage est jaune, assez pelé, il faut le reconnaître, beaucoup plus émacié qu'il n'est d'habitude, parce que c'est un paysage très verdoyant, c'est de l'herbage, hein. On dirait de la prairie ou de la pâture. Ici, en fait, on dit de la montagne. C'est-à-dire de la montagne à vaches, voilà, du pré où mangent les vaches. Et simplement, à main gauche, là, une belle petite toiture ardoise, hein, écaille d'ardoise, et c'est un petit buron qui appartenait d'ailleurs à la famille d'une amie. Et quand nous venons ici avec cette amie, elle dit toujours « c'était le buron de mon grand-père ». Et ça lui donne pour moi un cachet particulier, je dois dire. Et donc ce petit buron-là signe la présence humaine, parce que c'est à la fois du paysage profondément livré à lui-même et à ce que j'appelle la force des choses vertes qui n'ont pas besoin de nous voir, auxquelles nous nuisons assez fréquemment. Donc c'est un paysage à la fois livré à lui-même et en même temps profondément marqué par l'empreinte humaine, les clôtures et aussi bien sûr la présence des vaches. On en a derrière nous et on va en trouver d'autres et on les entend. Les cloches des vaches sont là. C'est du paysage habité, c'est du paysage travaillé et du chardon bien sec. Donc, ce plateau, 1100 mètres d'altitude, pas plus, modestement, commune de Saint-Amandin, Cantal. Quelque part entre Rion-Esmontagne et Condat, donc situé très près de la maison dans laquelle je passe à peu près 10 semaines par an depuis 2006. C'est le... Je ne sais pas s'il faut dire le deuxième ou le second, mais c'est au moins le deuxième plateau de ma vie, parce que j'ai eu un autre plateau comme ça dans ma vie, dit le plateau du Limon, même profil, un peu moins spectaculaire parce qu'on n'y voit pas comme ici à la fois les monts du Sancy et les monts du Cantal. Donc le plateau du Limon est un peu moins spectaculaire, il est plus émacié aussi. Il est dans une commune voisine dans laquelle j'ai grandi. Et ça a été le premier plateau de ma vie entre l'âge de à peu près 10-11 ans et l'âge de 18 ans. Et le deuxième, c'est celui-ci. Le plateau ouvert, offert, on peut y aller, voilà. On se chausse et on y va. Et il est là, impavide. Ça lui est égal qu'on y aille, au plateau, très honnêtement. Et même, parfois, j'avoue que lorsque le plateau est un peu fréquenté, ça me gêne. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Mais voilà comment ça commence avec les plateaux.
Vous avez parlé de votre amie qui dit de ce buron, quand elle arrive, c'était le buron de mon grand-père. Est-ce que quand on écrit sur ce paysage, et dans ce paysage, est-ce qu'on écrit de la même manière, c'était là le pays que j'ai habité, ou est-ce qu'on écrit c'est encore le pays que j'habite et qui m'habite?
C'est définitivement le pays que j'habite et qui m'habite, définitivement. Je dis volontiers, le terme va peut-être paraître un peu étrange, d'autant plus que nous sommes assis sur une pierre plate devant une croix, mais à laquelle nous tournons le dos, je précise. Mais je dis volontiers que c'est une grâce pour moi d'être en lien avec ce paysage. C'est un lien extrêmement charnel. Ça commence avec le corps et j'espère que ça se finira avec lui. Je voudrais que mes cendres soient jetées sur ces chemins-là, à fleur de ciel, voilà, qu'elles partent dans le vent.
Antoinette est rousse, pas rouquine, il n'aime pas ce mot que son père dit parfois. Antoinette est rousse comme le renard qu'ils ont vu l'hiver dernier, sa mère et lui, en traversant le Grand Pré du Haut, un soir de neige. Sa mère a serré sa main qu'elle tenait dans la sienne, ils se sont arrêtés, le renard aussi, saisi, les trois. Ensuite, le bois a avalé la bête, il n'est plus resté que ses traces à peine visibles sur la neige bleue et dure. Antoinette est un miracle comme le renard. Son père tue les renards. Son père est chasseur. Plus tard, lui, il sera enfant de cœur et il ne chassera pas. Il ne veut pas tuer les bêtes, ni les renards magiques, ni les lièvres de velours, ni les chevreuils bondissants, ni les oiseaux, aucun oiseau, surtout pas les oiseaux. Tout se bouscule à l'intérieur de lui. Les oiseaux, Antoinette la renarde, le vitrail de l'église, les fraises, le beurre frais du confessionnal, le secret du grand fait tout. Il ne résiste pas. C'est trop de tout en une seule goulée. Ses pieds nus battent en silence la mesure de sa joie sur la quatrième marche. Il voudrait s'envoler. Il aime se souvenir du dernier été. Histoire du fils par Marie-Hélène Lafon. Ces deux plateaux dont nous avons parlé, il y a un autre lieu qui constitue aussi votre écriture, c'est le lieu où vous travaillez en tant que professeur, et là, pour le coup, c'est Paris.
Oui, j'ai vécu depuis l'âge de 18 ans, en fait, en tension entre les deux, entre ce que j'appelle le pays premier, qui eût pu être tout autre, mais qui est celui-là, qui a ce corps un peu spectaculaire, quand même, puissant, et le pays qui est définitivement un pays d'adoption, hein, quand bien même j'y ai vécu 42 ans, et je continue à y vivre, et à y travailler. Et bien longtemps avant de commencer à écrire, parce que je commence à écrire tard, hein, à 34 ans, mais entre l'âge de 18 ans et l'âge de 34 ans, évidemment que j'ai été traversée et travaillée au corps par cette tension entre les deux pays. D'autant plus que l'écart, à tous égards, et notamment du point de vue culturel, et plus largement que ça, d'un point de vue sociologique, l'écart était abyssal, évidemment. Et que j'ai été travaillée par cet écart-là aussi. Voilà. Et en fait, j'appelle ça une ligne de tension, de haute tension. Hein, bon. Je compare volontiers ça à une ligne de chemin de fer, car je conçois qu'on ait du mal à le croire, vu les déboires de la ligne Paris-Clermont-Ferrand.
On est obligé d'en parler.
N'est-ce pas ? Mais il existe encore une ligne Neussargues-Paris via Clermont-Ferrand, que j'ai beaucoup pratiquée, la gare de Neussargues étant 6 dans le Cantal, donc. Et en fait, cette ligne-là, cette ligne de chemin de fer, c'est aussi une ligne de haute tension qui traverse ma vie et qui traverse mon écriture. Et écrire, d'une certaine façon, ça n'est pas seulement ça, hein, évidemment, mais c'est aussi se tenir en équilibre instable, qui demande constamment d'être pleinement en état d'alerte, se tenir en équilibre sur une ligne de haute tension.
Il faut être funambule sur l'électricité.
À mon avis, oui. Alors ça paraît être une vision un peu vexatoire, hein, de l'acte d'écrire, funambule sur une ligne de haute tension. Rassurons-nous, hein, ça n'est pas seulement un exercice hautement punitif, c'est aussi quand même profondément jubilatoire.
Pour en revenir à ce paysage où nous nous trouvons, donc à quelques kilomètres de Saint-Amandin, on a parlé depuis le début de plateau, d'horizon. On a parlé de Paris aussi, qui est une ville plutôt plate, même s'il y a quelques petites collines, quelques petites buttes. Là, ce que j'aimerais aborder, c'est la question de l'altitude. Parce que finalement, là, nous sommes à plat. À Paris, on l'est aussi. Vous avez parlé de cette ligne de haute tension tirée entre deux lieux. La différence, c'est l'altitude ou pas ?
La différence, c'est l'insularité. Les altitudes ici sont modestes. Le Puy-Marie, je me trompe tout le temps, mais enfin, c'est moins de 1800 mètres, c'est 1700 et quelques, etc. Donc les altitudes sont évidemment très modestes. C'est de la montagne rabotée. C'est la géologie qui a fait son boulot, hein, qui a vraiment remis tout ça à niveau, bien gentiment. Hein. Les millénaires ont remis tout ça à niveau, vous ont arrondi les angles, les aigus, etc. Quand on y est né et qu'on y a vécu, de façon continue, dans des années décisives, on sait à quel point c'est le bout du monde. La grande question ici, liée au partir et au revenir, c'est le caractère insulaire qui est voulu par la géologie et la géographie. Le climat aussi, hein, qui est quand même assez rechigné, quand même un climat assez austère. Et cette insularité, j'ai été de plein pied avec elle dans la petite enfance et dans l'adolescence. Et d'une certaine façon, je l'ai emportée avec moi aussi. Et je l'ai toujours recherchée par la suite. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a rien de spectaculaire dans ses altitudes, etc. Mais c'est un pays isolé. C'est un pays qu'il faut aller chercher avec les dents. Qui, de surcroît, ne se laisse pas facilement atteindre. Oui.
Domestiquer, n'en parlons pas.
Non, ça, c'est pas possible. Moins que la question de l'altitude, c'est la question de l'isolement. Alors, j'en parle à mon aise, hein, comme quelqu'un qui n'y vit pas toute l'année.
Oui.
Voilà. Hein. Cela dit, moi, j'ai 60 ans. Quand j'étais adolescente, et même quand j'avais 20 ans, il y avait un mouvement vraiment qui ne faisait que continuer ce qui existe depuis très très longtemps, qui consistait à laisser fuir les forces vives, la jeunesse qui allait gagner sa vie ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas la gagner ici, en dehors du monde agricole quasiment.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver avec leurs mains.
La situation a évolué. Non, je ne dirais pas qu'elle est florissante du tout, mais il y a un apport de population venue de l'extérieur qui choisit de venir vivre ici et qui choisit de venir y vivre toute l'année. Peut-être justement parce qu'on s'y sent éventuellement un peu loin de protéger, je ne sais pas. Mais un peu loin du chaos du monde.
On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings, on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des os et les déesses. Aux alentours, souvent changer d'adresse. Ce qui nous entoure, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or.
Bachung sur un trapèze.
La source. Cécile Coulon sur France Inter.
Nous sommes avec Marie-Hélène Lafont dans le Cantal d'eau à la Croix de Chassagny. Marie-Hélène Lafont, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté du monde ?
Après tout, ces paysages émaciés là, que vous aimez, je crois, et que j'aime aussi, paraîtraient peut-être d'une austérité sans nom et proprement répulsive. Un certain nombre de gens. Hein. J'ai déjà toujours à l'esprit cette réserve concernant cette notion de beauté dont on sait la relativité. Mais en ce qui me concerne, c'est moins une exagération qu'une nécessité pour moi de puiser à cette source. Puiser, mais pas épuiser. Elle est inépuisable. Donc, elle est partageable. Et dans la mesure où écrire pour moi, c'est incarner, donner chair aux choses, eh bien, il s'agit aussi de donner chair à ce paysage, à ses inflexions, aux sensations qu'il procure. Et évidemment que j'espère que par le travail d'écriture, le lecteur va être lui aussi happé, traversé, bouleversé, secoué, acculé, caressé par ce jus-là, cet élan-là.
Le platane bruisse imperceptiblement dans la chaleur blanche de l'après-midi, comme s'il soupirait. André sent les dangers derrière le platane et ailleurs, il est pressé de devenir costaud, mais il aime ce soupir du platane. À Hélène seulement, il pourrait parler du soupir du platane, pas aux cousines qui se moqueraient. Le platane soupire, sa mère s'éloigne. Soupir rime avec sourire et cousine avec poitrine. Il pense à la poitrine des cousines. Il la sent contre lui quand elle le serre. Les cousines le serrent souvent. Elles ont toujours fait ça. Elles sont terribles quand elles se moquent, mais il aime plus que tout le nid de leurs bras et le rond et le chaud de leurs seins sous les tissus. Il ne dit le mot « sein » que pour lui, dans le secret de sa bouche. Il sait qu'il a beaucoup de chance avec les cousines. Il comprend que les autres garçons, souvent, sont privés de poitrine, de sein. Il les regarde, ils y pensent, ils en parlent entre eux. Il a déjà entendu les grands de la classe du certificat sous le préau. Il sent que c'est difficile et rare pour eux de toucher la poitrine des filles à travers les tissus. On n'espère pas les voir, les seins, la poitrine, les voir en vrai. Lui ne les voit pas non plus, les cousines ne les lui montrent pas, mais elles le serrent. Et il les sent, et c'est le paradis. Histoire du fils de Marie-Hélène Lafont.
Je me suis déjà demandé ce qui m'arriverait si, pour des raisons diverses, et ça peut survenir dans une existence, je ne pouvais plus venir puiser à la source, avec les yeux, avec les mains, avec les pieds, avec les cheveux, les dents, enfin, si je ne pouvais plus. Et dans les premières années où je vivais à Paris, je revenais beaucoup moins régulièrement. J'ai dit tout à l'heure que j'y passais 10 semaines par an. Entre l'âge de 18 ans et l'âge de 45 ans, je revenais régulièrement, mais pour de courts séjours, et ça n'était pas 10 semaines par an, c'était moins. En fait, c'est peut-être présomptueux, hein, mais j'ai le sentiment que la source coule en moi. Quand bien même je ne pourrais pas revenir régulièrement embrasser ces sensations, je crois que c'est là.
Qu'est-ce qu'une source ? Je suis allée tirer du dictionnaire trois définitions. La première désigne l'eau qui irrigue un paysage habité par des hommes, des bêtes et des plantes. La deuxième, l'endroit exact où ce qui est souterrain affleure à la surface de la terre. La troisième renvoie évidemment au berceau, au premier lieu. Ce que je veux savoir, c'est si en littérature, la deuxième définition existe. Y a-t-il un moment où ce qui est souterrain, présent mais invisible, tremblant et caché, devient langage, écriture, phrase et histoire publiée.
Dans ma vie, j'identifie vraiment un moment, entre mon 33e et mon 34e anniversaire, où s'est produit cet affleurement de l'écriture, quand ça a pu commencer, et ce qui a fait que ce qui était souterrain depuis l'enfance, conscient, mais souterrain, le désir d'écrire, ce qu'on pourrait appeler un mot un peu grand, mais n'ayant pas peur des grands mots, la vocation, cette affaire-là a affleuré. Et la mirage, c'est-à-dire ce qui a fait affleurer, ce qui a fait sourdre, ce qui a fait sortir, outre ce qu'on appelle aujourd'hui un travail sur moi-même, n'est-ce pas, que je les accomplis patiemment, c'est aussi le flot et le flux d'autres écritures. L'écriture de Pierre Michon, l'écriture de Pierre Bergougnoux, l'écriture de Richard Millet, qui sont des écritures du vieux socle hercynien autour de nous répandu. Corrèze, Creuse. Non pas qu'il s'agisse encore une fois d'une assignation géographique réductrice, mais il y a là-dedans une force qui montait des vieux pays élimés, rabotés par l'exode rural. Et cette force, c'était la langue. C'était la langue qu'écrivaient ces hommes pour dire ces pays-là, ces pays sources, justement. Et d'une certaine manière, à partir de l'automne de mes 33 ans, je me suis mise à découvrir que ces écrivains existaient et à les lire. Eh bien, ce flux textuel a réveillé la source, a fait en sorte que l'eau de cette source a pu affleurer à la surface. Je dois ajouter quand même une précision, c'est que en ces années-là, je pensais que si un jour j'écrivais, je prendrais comme pseudonyme le mot de Santoire, qui désigne la rivière qui part du Puy-Marie, qui se jette dans la rue Aconda, petite quarantaine de kilomètres, et qui Borne-le-Pré, qui fut celui de mes parents, donc Rivière matricielle et séminale s'il en est. Donc je pensais que je prendrais ce pseudonyme. Je ne l'ai pas pris parce que je l'ai oublié le jour où j'ai signé mon premier contrat, ce qui est quand même faramineux. Hein. Et il m'a fallu du temps, alors que je suis quand même vaguement latiniste, pour entendre couler la source dans mon propre nom.
Joseph y repensait. Il avait été jeune dans cette ferme de la commune de Ségur, dans la vallée de la Santoire. Maintenant, ce n'était plus une seule ferme. Les terres avaient été vendues d'un côté, à deux paysans différents qui faisaient tourner de grosses exploitations. Et la maison, une forte maison presque carrée, avec des sculptures dans la pierre de chaque côté de la porte d'entrée et au moins 7 pièces en tout, la maison n'était plus dans la famille. Elle était devenue une résidence secondaire très bien entretenue. Joseph le savait, il suivait ses affaires et se souvenait des maisons, des bêtes, des prés, des bois, des gens, de ce que ça avait été, de ce que ça devenait. Ça devenait quelque chose de mieux ou de moins bien, il n'aurait pas su dire quelque chose d'autre. Les gens et les bêtes mouraient, mais pas les prés, pas les terres, pas la rivière. Tout se conservait et il avait beaucoup à penser. La Santoire, par exemple, il était né au bord. Il avait vécu là, pas loin, dans sa vallée ou autour. Il l'avait entendue souvent la nuit et connaissait toutes ses saisons, un peu comme si elle avait coulé à l'intérieur de lui. Joseph, de Marie-Hélène Lafon. Nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Lafon, au cœur du Cantal, et nous guettons la naissance de l'écriture.
Quand j'ai commencé à écrire, et que assez rapidement, au fond, j'ai été sollicitée pour commencer aussi à parler de l'écriture, je me suis rendu compte que ce qui affleurait dans ma parole au sujet de l'écriture relevait exclusivement du registre artisanal ou du registre agricole. Je dis volontiers... Les vaches ruminent, moi aussi, point. Avant de prendre les outils à l'établi et de se mettre à l'établi, d'empoigner les choses à l'établi, il y a des phases très longues, ce que j'appelais le suintement du jus. Il y a des phases très très longues de rumination. On voit d'où ça vient, si je puis dire. Et aussi de fermentation. J'appelle ça la fermentation en cave profonde. Et je ne peux pas ne pas préciser que je descends d'une mince dynastie fromagère, puisque mes parents et mon frère ont fabriqué du Saint-Nectaire fermier dans le Cantal de l'année de ma naissance jusqu'à 2008. Et avant cette fabrication-là, dans l'histoire familiale, mon grand-père paternel a fabriqué, lui, du Cantal. Bon, donc ce sont, jusqu'à preuve du contraire, des fromages qui fermentent et qui mûrissent en caves profondes. Eh bien, dans les caves profondes qui me constituent, fermentent et mûrissent des matières. Je dis pas des sujets. J'ai pas de sujets. Je n'écris pas sur des sujets. J'écris sur de la matière. Voilà. J'ai des matières. Bon, j'ai bien conscience de filer une métaphore douteuse, hein, mais avec le suintement aussi tout à l'heure. Mais on fait ce qu'on peut. Il y a de l'organique, de toute façon. Il y a une part d'organique, incontournable et très très difficile, en ce qui me concerne en tout cas, à cerner. Et l'organique, c'est toujours un peu dégoûtant. Donc d'abord, fermentation, rumination, longuement. Bon, vient un moment où ça commence, c'est-à-dire, je me mets à l'établi, j'appelle ça comme ça. Hein. Je dis volontiers, je gratte. Trying to get on top, but it's never easy. Mastered my own luck, but it wasn't easy. Trying to feel alright around all these people. I try, but I'm just numb this time. Deep is cut, but I can't feel. Find my grip on the steering wheel. I know I'm pissing. Too good to pass. Meeting you caused a change, yeah.
you know the deal. Burnt, but it's still frying. Yeah, you know the deal. Can't redeem my love. It's such a steal. But you can't say I'm not trying.
Lost track.
Donc, papier et crayon, pour la plupart des textes, d'abord. Bloc de papier que j'achète pour la plupart d'entre eux, non tous d'ailleurs, hein, à Rions-Montagne, chez François Chomeil. Et j'inscrirai sur le dos cartonné de ces blocs, au crayon à papier, j'inscrirai la date de début et la date à laquelle... ce carnet est plein. Et éventuellement, je mettrai deux ou trois mots comme ça, parce que ce sera censé être peut-être le titre de ce morceau-là. Mais ce sont des morceaux. J'ai pas de plan du tout. Encore une fois, ça se constitue d'une manière très très organique. J'ai des repères, voilà. Il y a des repérages. Il y a des cotes qui repèrent, comme je crois le disent les menuisiers, hein, les pièces comme ça, au dos cartonné de ces carnets. Voilà. Et j'écris plutôt... au crayon, enfin ce que j'appelle moi le crayon à papier, quoi. Voilà, un peu mou, un peu gras. Donc en général, il y a une première phase comme ça. Voilà. Je n'écris que d'un côté de la feuille. Et éventuellement de l'autre côté, si une image me vient ou quelque chose que j'hésiterais à qualifier d'idée, bon, si j'ai une poussée textuelle, comme on a une poussée de fièvre, je vais inscrire deux, trois choses au dos de la feuille. Histoire de ne pas le perdre, mais ce qu'on perd, ce qu'on gagne, je ne sais pas.
France Inter, La Source, Cécile Coulon.
Établi, comment on y est, dans quel voilà, comment on s'y assoit, comment on se dit bon, là il faut s'y mettre quoi, parce que j'ai tendance à procrastiner aussi, hein. Je vais étendre une lessive, bon, y a un bon podcast à la radio, enfin je pourrais mettre un bon podcast, mais non, il y a un moment où il faut s'y mettre, il faut s'y coller quoi. Avec, ça m'amuse beaucoup quand on imagine les écrivains qui ont des bouffées d'inspiration et qui enfourchent le nuage et caracolent. Moi je caracole pas, hein. Je m'y colle, évidemment. Il y a des phases très, 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 très jubilatoires quand on y est. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais bon, il faut s'y coller. Bon. Avec donc des outils, vous voyez, d'abord carnet, crayon. Je gomme pas, je rature. Pas beaucoup, d'ailleurs. Pas énormément, au fond, parce que je sais que la première version de texte, là, le premier flux de texte, va ensuite être engrangé. Je vais l'engranger dans l'ordinateur. Alors là, l'ordinateur, c'est encore une autre affaire. En voilà un outil. Enfin, ça devrait être un outil. Et comme je suis à la limite toujours, vraiment, je fais le geste là, de l'eau qui menace de m'entrer dans la bouche et de me noyer définitivement, je suis toujours à la limite de l'infirmité numérique déclarée. Donc, pas à l'aise avec l'outil, mais l'outil est indispensable. Et je reconnais que dans une deuxième phase, en ce qui me concerne, il rend des services extraordinaires. J'engrange le texte, donc je le retravaille. Et ce que j'appelle service extraordinaire, c'est qu'évidemment, quand on veut vérifier qu'on n'a pas répété 36 fois l'adjectif « dru », eh bien on recherche « dru », et puis tous les « dru » s'alignent. Et on retravaille chaque occurrence, c'est extraordinaire. Et certainement beaucoup d'autres choses que je ne sais pas faire moi, mais que les trentenaires, quadragénaires et autres jeunesses vaillantes savent faire, eux. avec l'outil. Mais bon, l'outil numérique, donc, j'y suis. Voilà, j'ai du fichier texte. Au début, quand j'ai commencé à travailler, je passais déjà moi-même par la phase informatique. Je tapais moi-même mes textes. Je n'ai jamais eu recours à quelqu'un d'autre pour le faire. Je me demande ce que c'était ça, parce qu'on a tous lu ça. L'épouse qui tape le texte du mari, voilà, ça moi j'ai pas fait, j'ai toujours moi-même engrangé mes propres textes, j'appelle ça engranger, vous voyez la métaphore, et retravailler évidemment, retravailler beaucoup. Et là, carnet crayon, ensuite ordinateur, et l'outil fondamental que je ne peux pas, vous allez comprendre pourquoi, accrocher au mur en face de moi dans l'atelier, j'ai pas d'atelier d'ailleurs, j'écris dans n'importe quelle pièce, les pièces à vivre souvent, c'est la voix. Et quand je dis la voix, c'est très réducteur, c'est le corps. Faire monter le texte depuis le ventre, en l'extrayant, c'est-à-dire en le faisant remonter des entrailles organiques, c'est-à-dire de la viande, le constituer dans l'air, voilà, avec sa voix. Le travailler comme ça. Donc ça, c'est l'outil fondamental. C'est mon corps.
La voix comme instrument, comme outil qu'on ne peut pas placer bien à l'horizontale au-dessus de l'établi, la voix qui agit à la manière d'un filtre sur la phrase. À travers la voix, les mots passent et sont triés, dégrossis, ajustés. Cet outil de travail, c'est évidemment celui de Gustave Flaubert, si important dans l'écriture de Marie-Hélène Lafon. Gustave Flaubert et son gueuloir, où il teste ses phrases, où il sait qu'elles sont bonnes une fois passées par cette épreuve.
Oui, alors je dis toujours, Flaubert, si je ne m'abuse, 80 kilos, non, beaucoup plus que ça, non, 92 ou 93 et plus d'un mètre 85, de l'embonpoint le gars. Et du coffre, c'était un colosse, je l'appelle le colosse sentimental. Je ne fais pas le poids. Et son cabinet de travail, de Croissy, nous est bien connu, a été décrit, était immense, 5 fenêtres qui donnaient sur la Seine, etc. Mais locaux de travail, entre guillemets, ne font pas le poids. Non plus. Le geste de travail procède de la même nécessité, c'est-à-dire essayer d'entendre au plus serré la phrase et essayer de lui donner le juste rythme et la juste tension. Et je ne peux pas, concernant cette affaire des outils, etc., je ne peux pas ne pas vous dire, vu l'endroit où nous sommes assises, aussi, à quel point pour moi, écrire la phrase, lui chercher, je ne dis pas lui donner, tenter de lui donner, lui chercher la juste tension, relève du geste que j'ai toujours vu accomplir par les hommes, à savoir tendre une clôture de fil de fer, barbelée ou pas, entre deux piquets, en lui donnant la juste tension. Trop tendu, c'est pas bon, pas assez tendu, c'est pas bon non plus. Trop raide d'un côté, trop flottant de l'autre. J'aurais plutôt tendance à aller vers le trop raide que le trop flottant, je crois. Mais il faut trouver la bonne tension. Et la bonne tension, c'est aussi une question de rapport entre le fil de la phrase et sa matière et l'air. Comme ici, le fil de la clôture, là, il est travaillé, il n'y a plus de vent, mais quand il y a vraiment beaucoup de vent, il est travaillé par ça aussi, le fil de la clôture, et par le bois qui sèche, et par les vaches qui vont venir se frotter, et il faut que ça tienne.
Est-ce que vous avez déjà été épuisé par l'écriture d'un livre? Et est-ce que c'est le cas à chaque fois?
Ça me rétame complètement. Mais j'aime cet épuisement, pour le coup. Autant je ne pense pas rechercher la douleur masochiste que peut parfois revêtir l'acte d'écrire, autant l'épuisement consécutif, je le reconnais et je le cherche. J'aime beaucoup cet épuisement. Enfin, il dit quelque chose, il signe quelque chose. Bon, c'est hélas pas une condition, évidemment, de qualité. On sait bien que c'est pas parce qu'on est épuisé ou qu'on se sent épuisé, qu'on sent cette fatigue très très singulière qui n'a rien à voir avec aucune autre fatigue. Et plus on avance en âge, plus on en connaît des registres de fatigue différents. Donc cette fatigue-là, hélas, ne signifie pas qu'on ait bien travaillé. D'ailleurs, on me dit souvent, tu as bien travaillé? Je dis, j'ai travaillé. Bien, j'en sais rien et je le saurai jamais. J'ai travaillé. Mais ça vous rince, quoi. Ça vous rince. Une seule fois, pour un chantier, ce que j'appelle chantier violent, qui est très singulier, qui fait l'objet d'un texte qui sera publié en janvier 23. Une seule fois, pour le coup, j'ai eu le sentiment que cette fatigue-là pouvait, me rendre malade, quoi. Me mettre vraiment au tapis. La plupart du temps, c'est une fatigue. On se sent vidé et on passe à autre chose ou on dort. Ou, enfin bon, ça dépend comment tout ça se situe dans la logique d'une journée. Et ensuite, on comprend au contraire que ça a donné de la force. Et le cercle vertueux, le cycle vertueux s'enclenche. Voilà. Et le cercle est vertueux. Une seule fois, j'ai eu le sentiment que c'était pas forcément ça. Mais je sais pourquoi. Hein. Une seule fois, j'ai eu le sentiment que ça pouvait me foutre à terre. Voilà. Et que j'aurais du mal à m'en relever, même si je suis coriace. Ça a été une expérience. Je sais pas si je serais amenée à la refaire parce que, encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois quand on m'entend et quand on me lit, je ne suis pas masochiste.
Écrire, ce serait aussi faire l'expérience de son corps. Vous dites utiliser votre voix comme un outil, au même titre que tous les autres outils d'écriture. On entend soi-même la phrase qui est en train de se faire, qu'on est en train de faire et qu'on va sans doute refaire. Mais cette phrase, elle sort, puis elle nous traverse de nouveau. Il y a un aller-retour en soi. Et c'est quelque chose qui semble, pour le coup, assez fatigant pour un organisme humain. Et quand on vous lit, Marianne Lafon, il y a chez vous cette obsession, je me permets le mot, du vocabulaire précis, du mot juste, et encore plus que du mot juste parce qu'il est à la bonne place.
Vous avez raison, c'est une obsession. Je dis toujours que j'écris des livres d'obsédés, hein. C'est très très clair. C'est toute la question. C'est pour ça que l'écriture, c'est politique. Le juste mot à la juste place. Et moi, à ma place. Et quelle est ma place? Je dis volontiers, ça n'est pas une image, que la langue, c'est le pays que j'habite. Et j'y cherche. Comme les bêtes qui se gîtent dans leur tanière et qui cherchent la bonne place. Les chats font ça d'ailleurs, parfois aussi. Ils cherchent longtemps la bonne place avant de la trouver. Dans la langue, je ne cesse de remuer pour chercher la juste place de chaque mot. La question de la place est obsessionnelle dans tous mes livres, de façon diverse, avec toutes les variantes possibles et inimaginables qu'on pourrait relever, mais elle est fondamentale. Et je ne réduis pas cette question de la place, bien entendu, à ce qui m'a été très tôt renvoyé, c'est-à-dire à l'étiquette transfuge sociale, qui évidemment peut m'être assignée. Évidemment, j'en relève aussi de ce processus-là. Mais ça dépasse très très largement cette affaire-là. Au fond, je pense à ça, vous voyez, en vous en parlant. Moi, quand je suis à l'établi, j'ai tendance à bouger beaucoup. Voire même, je me lève, je vais marcher, je me rassieds. Je suis instable à ma place. Et en général, d'ailleurs, j'ai eu des mots d'eau très importants. Donc, on me dit, oh, il faut que tu prennes tel siège, surtout toi qui restes longtemps à écrire assise. Il faut que tu prennes tel siège. Tu achètes un trône pour écrire. Jamais de la vie. J'écris sur des tabourets pourris. Sur des chaises impossibles. La chaise Ikea rouge, raide, 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 inconfortable possible. J'ai probablement besoin de ça. Voilà. Et je me balance. Et je bouge beaucoup. Je cherche l'équilibre. La place.
Il est une ville sans lumière. Quand sur elle vient l'automne, on ne croise plus personne à l'autre bout de la mer. Là-bas, dans la nuit comme au matin, les hommes autour de la table se fabriquent
Marie-Hélène Lafont, tout à l'heure, on a parlé du gueuloir de Flaubert. Et je voudrais maintenant qu'on aborde la question des sources d'inspiration, des sources d'écriture. Vous avez choisi un extrait du livre de Gustave Flaubert, Un cœur simple. Et j'aimerais que vous me parliez de la place, encore une fois, que tient cet auteur et ce livre dans votre vie de lectrice et d'autrice.
Il était mort. On n'en disait pas davantage. Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma ses paupières qui devinrent roses tout à coup. Puis, le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, elle répétait par intervalles « Pauvre petit gars, pauvre petit gars ». Liébar la considérait en exhalant des soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Liébar jugea convenable de se retirer. Alors, elle dit « Ça ne leur fait rien à eux ».
Dans la vie de Gustave Flaubert, Un cœur simple, c'est une sorte d'intermède, puisqu'il est déjà à l'établi des deux cloportes, c'est comme ça qu'il appelle Bouvard et Pécuchet. Il va suer sang et eau et ahanner jusqu'à la fin sur Bouvard et Pécuchet, qui finiront par avoir sa peau, puisqu'il mourra sans avoir terminé l'écriture de ce livre. Et il s'offre une sorte de parenthèse, que je ne qualifierais pas d'enchantée, avec les trois contes. Un cœur simple, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier et Hérodias. Un cœur simple est donc un texte court. Quand on pense Flaubert, on pense toujours Madame Bovary, 482 pages, etc. Un cœur simple, 30 pages. J'appelle ça le bréviaire absolu. Je l'ai découvert assez tard, finalement. Je ne l'ai découvert qu'à l'âge de 19 ans. J'avais lu Madame Bovary et j'avais lu l'éducation sentimentale, si je ne m'abuse, mais pas donc ce cœur simple. Et la première fois que j'ai rencontré le cœur simple, Félicité, servante. C'est l'histoire de la vie de Félicité, servante. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est un seul trait, un seul jet, voilà, très ramassé. Donc la première fois que j'ai rencontré ce texte, je l'ai rencontré dans un jardin en Normandie, un dimanche après-midi. C'était une fille qui le lisait à son père. C'était un rituel entre la fille et le père, dans cette famille lettrée infiniment. Évidemment que cette histoire de Félicité, qui fut d'abord fille de ferme, avant de devenir la servante de Madame Aubin à Pont-l'Évêque, cette histoire m'est rentrée dedans parce qu'elle était une histoire qui venait du monde d'où je venais, mais aussi parce qu'elle était lue par une fille à son père dans un jardin en Normandie. L'administration même du texte, au sens rituel et au sens religieux du terme, est fondamentale pour l'entrée de ce texte dans ma vie. Et plus rien n'a été pareil après cette lecture inaugurale que j'ai achevée ce dimanche, très lointain dimanche après-midi-là, dans le volume de la Pléiade, volume fatigué, que l'on se transmettait de père en fille dans cette famille, qui m'a été prêté, livre de messe, le volume de la Pléiade, et j'ai achevé la lecture d'Un cœur simple à l'heure des vêpres. C'est religieux, c'est totalement religieux, et c'est définitivement religieux. J'ai un rapport très ritualisé et très religieux à Flaubert, saint patron des écrivains morts, Pierre Michon étant le saint patron des écrivains vivants. Saint patron ou boss, on appelle ça comme on veut. Et on écrit saint comme on veut aussi. Donc, je relis inlassablement Un cœur simple. Et souvent quand je lis ou que je relis Un cœur simple, j'ai envie de pleurer. De pleurer d'émotion et de pleurer, ça peut paraître un peu étrange de dire cela, mais de pleurer de beauté aussi.
Outre les circonstances que vous avez racontées à l'instant, est-ce que le fait que ce livre, qui fait 30 pages tout au plus, le fait qu'il soit court, fait qu'il est si beau ?
Un cœur simple prend le risque de l'ellipse.
c'est très difficile. Faire court, c'est très difficile. Faire court sans que ce soit pure paresse ou sans que ça laisse le lecteur sur sa faim, c'est, à mon avis, un sommet total. Et peut-être que Flaubert, n'a-t-il pu faire aussi court que, parce qu'il avait fait d'abord très très long. C'est un texte de la fin de sa vie. Encore une fois, c'est même au fond le dernier texte achevé puisqu'il n'achèvera pas. Vous verrez Pécuchet qui l'achèveront, lui. Vous voyez ? Donc, il me semble que faire court comme ça, comme lui, c'est un sommet. D'ailleurs, je donne volontiers cette précision, c'est que pendant très très longtemps, j'ai considéré, et je persiste à considérer, qu'avec Un cœur simple, tout a toujours déjà été fait, que c'est même pas la peine d'écrire une ligne. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles je me suis mise à écrire très tard. C'est que j'avais trop lu Un cœur simple, et trop relu Un cœur simple. Voilà. Et je me suis autorisée à m'adosser à Un cœur simple, en sous-texte, comme on porte un sous-vêtement, dans Joseph. Joseph est un livre écrit en écho à Un cœur simple. Un cœur simple en est le filigrane, intime.
Je vais vous poser une question que je poserai à tous les invités. On a pendant une heure essayé de comprendre, on a creusé ensemble sur d'où vient l'écriture. Et en fait, ma dernière question, c'est où va-t-elle ? Y a-t-il une destination ?
Elle va dans le vent, dans la lumière, entre les oreilles des lecteurs. Et c'est déjà ça. Elle va à la nuit comme nous.
Cette émission a été réalisée par Laurent Polleret, préparée par Fanny Leroy et à la technique Anne-Laure Cochet.